C'est la mer ?
Non, c'est ma belle-mère.
La belle parentalité, c'est une drôle d'aventure. La vôtre peut-être. Et si on en parlait un peu ? Bonjour à tous, je suis Clémence Bernard et pour vous, j'ai créé le podcast qui vous aide à trouver des réponses et des clés sur la belle parentalité. Un concept audio qui donne la voix aux personnes ayant elles-mêmes fait l'apprentissage de cette parenté d'un autre genre ou à celles et ceux qui ont un avis, conseils, tips à nous transmettre. Alors, si vous êtes parent, joli parent, enfant, bel enfant, beau grand-parent, acteur ou témoin d'une famille recomposée, ou toute personne désireuse d'écouter différentes expériences sur le sujet, bienvenue dans la communauté de la belle parentalité et piochez ce qui vous plaît.
Tu me saoules, sors de ma chambre. C'est ma chambre.
Lorsque je suis arrivée dans cette famille composée du père et de ses trois enfants, j'étais un peu dépassée par la tâche qui m'incombait. Après de nombreuses années de célibat, j'avais du mal à croire à ma capacité à être en couple, alors en famille recomposée, c'était pas vraiment une évidence. Je n'avais même pas eu le temps de construire pleinement mon nouveau couple que je me retrouve à vivre à la place d'une mère que je ne connais même pas, à devoir éduquer ses trois enfants à temps plein, sans forcément comprendre la façon dont ils avaient été éduqués depuis la petite enfance. Alors, comment prendre ce relais sans lien ? Ok, je connaissais la situation, mais je n'avais absolument pas conscience de tous ces enjeux puisque je n'en avais jamais fait l'expérience. Évidemment, je devinais tous les obstacles auxquels j'allais devoir faire face, mais en prendre trop conscience, ça me fichait une sacrée trouille et ça m'aurait empêché d'avancer avec confiance. J'étais plutôt lucide, en fait, mais pas trop. Il faut quand même un peu de témérité pour oser s'y aventurer ou un léger brin de folie, peut-être. Un peu des deux, en fait. Alors oui, on choisit la famille recomposée en connaissance de cause, on doit se sentir responsable car l'on découvre la parenté et ses conséquences. En cela, je pense que les adultes qui arrivent dans une famille recomposée doivent mesurer les conséquences de leur choix et assumer de devoir parfois les subir par la suite. Car s'inscrire dans le panorama émotionnel et éducatif d'enfants qui ont souffert d'une séparation, c'est hyper engageant et ça demande quand même une solide colonne vertébrale. On ne joue pas un rôle superficiel auprès d'enfants qui ont besoin de soins et d'amour pour dégager subitement de leur vie parce que, oups, on se serait finalement rendu compte que, on n'aurait pas envie de vivre avec eux ou leurs parents. On prend le package all-inclusive, sinon, passez votre chemin. Âmes égoïstes, s'abstenir. Dans cet épisode, je me suis posé la question de la place dans la famille recomposée. Je ne me suis pas imposée subitement dans leur vie, mais je me suis vite retrouvée à une place qui n'était pas la mienne. Celle de mère. Donc, il a fallu que je trouve ma place de belle-mère dans ce grand bazar et comprendre quel était précisément mon rôle. Du coup, j'ai tenté d'interpréter avec brio le rôle de mère courage, pas toujours sage, un peu déglingo sur les bords. En fait, je jouais à la maman. J'incarnais un personnage, je me donnais la posture d'une inconnue à l'image de l'idée que je me faisais d'une mère, sans en être vraiment une au final. Parce qu'être beau-parent, c'est un rôle à part, à construire. Sans copier ni remplacer le parent biologique, tout en restant soi-même, en se dédoublant parfois et en découvrant son nouveau soi, tout ça sans devenir dingue. Oui, je sais, ça fait peur. Un rôle pour lequel personne n'a le mode d'emploi, comme être parent en fait. Sauf que là, on n'a ni désiré, ni attendu, ni conceptualisé, ni rêvé l'enfant. Le bébé, tout mimi, qui gazouille. Non, là, potentiellement, on peut se retrouver avec des ados clés en main et pas pour autant clés en cœur. Ou des enfants en bas âge, en grande demande d'attention, de soins, comme de disponibilité. J'ai eu tellement de conseils d'ex-beaux-parents un peu désabusés ou de proches inquiets me recommandant de ne pas prendre la place de leur mère, penser à moi, bla 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 bla. Mais comment faire lorsque la place était béante, si grande que je ne me sentais pas avoir d'autre choix que d'endosser un rôle qui n'était pas le mien. Puis, je me suis retrouvée à gérer une logistique familiale intense, des crises émotionnelles et familiales à gogo. J'ai dû porter une multitude de casquettes, tout ça en tentant de savourer ma première vie de couple. J'avais par ailleurs des vieux tocs de célib de rangement que j'arrivais pas à lâcher et ça occasionnait de nombreux conflits stériles et inutiles, car je dépensais une énergie folle à tenter d'imposer des valeurs éducatives que j'estimais importantes alors que si les miettes n'étaient pas ramassées, la vie pouvait continuer, quoi. J'ai confondu autorité et autoritarisme et je me suis souvent prise les pieds dans le tapis. Pour des miettes, en fait. Les crises dans la famille recomposée entraînant les conflits intra-couples Il faut aussi savoir cloisonner et rester à sa place. C'est d'ailleurs complètement surréaliste de devoir éduquer des enfants comme si c'était les siens, et parfois rester sur le banc de la touche en se bouffant les lèvres pour ne pas intervenir, par exemple, dans un conflit entre le parent et son enfant. Savoir se taire, retenir son envie de partager sa pensée que l'on croit juste, tout en restant un vecteur de communication essentiel pour son conjoint et son enfant. Donc, pour trouver son emploi dans la belle parentalité, il faut, selon moi, une grosse capacité d'adaptation et savoir accorder ses violons éducatifs. Mon conjoint a dû apprendre à me laisser un espace de liberté dans leur éducation, en me laissant trouver ma place dans leur quotidien, en me faisant confiance, en me donnant une forme d'autorité parentale, en me donnant confiance en moi et ma capacité à être une autre adulte référente dans leur vie, sans jouer de rôle avec une posture maternelle qui n'était pas la mienne, mais en trouvant ma propre méthode. Et en trouvant ma position dans notre famille recomposée, j'ai trouvé ma maternité, ma belle parentalité, j'ai trouvé celle que j'étais, en accord avec mes valeurs et ma personnalité.
Comment j'ai vu l'arrivée de Clémence dans la famille? J'ai l'impression que je me suis très vite habitué. Dû à mon âge, certainement, j'étais très jeune, mais surtout que je n'ai pas vu mes parents ensemble, du moins je m'en souviens pas. Pour moi, mes parents n'ont jamais été ensemble, je n'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Du coup, j'ai l'impression que je me suis très vite habitué à cette nouvelle présence féminine de Clémence maternelle, une présence maternelle. Et ça a été dur, effectivement, ça a été dur au début, même ça a été dur pendant plusieurs années. Mais j'ai l'impression de m'être très vite habitué quand même à cette nouvelle présence féminine dans la famille.
Le chemin a été long. Mais en ne prenant finalement ni la place du père, ni de la mère, en restant à la place que je m'étais trouvée et construite, en respectant mes beaux-enfants, mon conjoint, j'ai pu me permettre et permettre aux autres membres de notre famille de trouver leur nouvelle place à eux. J'avoue que je n'y suis pas toujours arrivée. Tout dépend de celle laissée par les parents séparés, évidemment.
Au début, c'était assez dur pour moi de me trouver une place dans ma nouvelle famille, surtout avec les problèmes de maman à côté. Mais avec le temps et l'amour que Clem nous a apporté, en plus de celui de mon entourage, j'ai réussi à trouver ma place.
Puis, ces places et rôles évoluent au fil des ans, avec l'arrivée d'un nouvel enfant, par exemple, ou lorsque les enfants quittent le nid au fur et à mesure. Elles sont mouvantes et on ne cesse de se remettre en question. Lorsque je suis passée de belle-mère à mère, tout a encore bougé. J'ai juste tenté de rester la belle-mère des trois enfants de mon conjoint en continuant à prendre soin d'eux, comme j'allais prendre soin de mon nouveau bébé.
Je me souviens quand Clem nous a annoncé sa grossesse, j'étais assise avec ma grande sœur à table et elle est venue nous proposer une tasse de thé, donc moi j'ai dit oui même si je détestais ça. Et après, pendant ce petit moment, elle nous a annoncé avec une voix un peu tremblante qu'elle était enceinte. Et sur le coup, avec ma sœur, on l'a regardée, on a fait « mais on s'en doutait, tu bois plus ton petit verre de vin habituel depuis quelques mois ». Je me souviens aussi du jour où elle nous a annoncé le sexe du bébé. Je rentrais de l'école et j'ouvre ma porte d'entrée. Et je vois un mot en forme de cœur sur le bar. Je le prends et je me souviens avoir pris du temps à le lire parce que je n'arrivais pas à déchiffrer son écriture. Et quand je comprends que c'est une petite fille au nom de Lynn, je fonds en larmes de joie, évidemment. Et j'avais tellement hâte qu'elle arrive pour que je puisse enfin rencontrer ma petite sœur.
Quand Lynn est arrivée en 2016, j'étais à un match de rugby avec mon père qui m'avait emmené voir le Stade français à Jean-Bouin. Et mon père a reçu vite un message d'urgence. Ça y est, Clémence a accouché. On s'est empressé d'arriver à Corbeil. Moi, j'arrive dans la chambre. Je vois une petite présence, une petite fille qui vient d'arriver dans ce monde. Et je me dis, mais en fait, elle va prendre ma place. Elle va prendre ma place de petit de la famille, du petit frère. Ben là, du coup, c'est la petite sœur, mais du petit frère qui est tout mignon et qu'on protège. Du coup, au début, j'étais très désagréable. Je voulais pas la prendre, je voulais quasiment même pas la voir au début. Mais quelques minutes après, j'ai décidé de demander à mon père de sortir de la chambre et je lui ai demandé « Est-ce que tu continueras à nous aimer ?» Tout en pleurant. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Évidemment que oui ». Là, j'ai été rassuré. Je suis rentré dans la chambre avec le sourire. J'ai pris ma petite sœur et c'est là où la première fois que je l'ai vue, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était une chance d'avoir une petite sœur, en fait. Une petite sœur que j'aime de tout mon cœur aujourd'hui et à qui je souhaite le meilleur.
C'était hyper complexe de donner autant d'attention à quatre personnalités différentes, avec des besoins différents et des âges différents. Évidemment, les problématiques et besoins d'un bébé ne sont pas les mêmes que celles d'un ado. Alors, La petite dernière grandissait au milieu de crises, certes, mais avec la joie et la folie des familles nombreuses, et surtout au milieu de beaucoup d'amour. Alors voici ma troisième question pour un troisième épisode. Comment trouver sa place de beau-parent, bel-enfant ou beau-grand-parent au sein de sa famille recomposée ? Catherine Audibert.
La difficulté, d'une manière générale, dans la recomposition, c'est que chacun trouve sa place, sa juste place, c'est-à-dire avoir une place, accepter que les autres aient une place aussi, se respecter mutuellement, que les enfants respectent leurs beaux-parents et que le beau-parent respecte les enfants aussi. Personne n'est obligé de s'aimer. L'amour viendra peut-être plus tard ou pas. Ce sera la cerise sur le gâteau s'il vient. Mais en tous les cas, on ne peut jamais obliger qui que ce soit à aimer. Donc, on ne demande pas aux enfants d'aimer leurs beaux-parents, ni même les quasi-frères et sœurs quand il y en a. Mais par contre, on leur demande le respect. Et on leur demande aussi de respecter les règles de la maison qui sont édictées par les adultes. C'est-à-dire que ces règles sont créées par le couple en bonne intelligence et le parent fait en sorte que ces règles soient respectées par ses enfants, même si c'est le beau-parent qui les édicte. Et ça, c'est assez important parce qu'il y a des familles, justement, où les beaux-parents n'ont le droit de rien dire, où leur parole n'est pas respectée. Alors que finalement, l'autorité, la bonne autorité qui n'est pas l'autoritarisme, mais la bonne autorité des adultes dans un foyer, elle est d'abord faite pour protéger et structurer les enfants. Donc c'est important que même s'il ne s'agit pas du parent biologique, eh bien les enfants puissent respecter la parole de l'autre adulte qui fait partie du foyer. Devenir mère, ça se prépare quand il s'agit d'une maternité biologique, pendant toute la grossesse et même avant. C'est-à-dire partir du moment où on a le désir d'avoir un enfant, on s'y prépare psychiquement. Pendant toute la grossesse, on s'y prépare encore d'une autre façon, puisque le corps y aide aussi. Et puis, à travers la mise au monde de l'enfant, il y a encore une autre étape de cette préparation psychique à la maternité qui se fait. Quand vous devenez belle-mère, ben, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que vous avez pu avoir le temps peut-être de vous préparer à cohabiter avec ces enfants-là quand vous avez fréquenté le père de ces enfants pendant un certain temps, que vous en avez parlé, que vous vous y êtes préparé. Mais ce n'est pas une préparation qui se compare à la préparation à la maternité dans ce que Winnicott, psychanalyste et pédiatre anglais, nommait la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire cet état où on est un peu folle finalement avec notre bébé parce qu'on est complètement dévoué à lui dans la période où il est dans une dépendance absolue. Mais en même temps, c'est parce qu'on est saine d'esprit qu'on peut être suffisamment folle à ce moment-là. Quand on devient belle-mère, il n'y a rien de tout ça qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'inventer finalement une façon d'être qui prend un peu de ce qu'est une mère, qui prend un peu de ce qu'est une mère adoptive, qui prend un peu de ce qu'est quelqu'un qui va prendre soin de cet enfant, même en n'ayant pas de lien biologique ni même juridique avec cet enfant-là. Donc, il y a une préparation à une certaine forme de maternité, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas, mais qui est tout à fait particulière. Et je pense que il faut aussi se dire qu'il faut un temps pour ça aussi, que ça ne va pas venir d'emblée, mais que ça va se faire petit à petit, à mesure qu'on côtoie l'enfant, qu'on s'occupe de lui, qu'on se soucie de lui, qu'on apprend à le connaître, et inversement. Et il ne faut pas être trop pressé pour ça. Le père a un travail psychique à faire qui est un peu du même ordre, c'est-à-dire que lui, désire l'enfant depuis avant sa naissance, avant sa conception. Il suit tout ce qui se passe pendant la grossesse de son épouse. Mais quand l'enfant arrive, vu qu'il n'a pas vécu les mêmes bouleversements que la femme peut vivre elle-même dans son corps et qui la prépare à la maternité, il est toujours un peu un père adoptif. C'est-à-dire que le travail psychique qu'il fait, c'est d'adopter cet enfant d'une certaine façon. Et en cela, peut-être qu'il y a des choses qui se recoupent aussi avec le travail psychique que font les belles-mères. C'est plus évident pour un homme de devenir beau-père que pour une femme de devenir belle-mère. Pour ces raisons-là, d'un travail psychique qui peut se ressembler, mais aussi parce que je pense que l'image d'une belle-mère est quand même frappée de quelque chose d'assez péjoratif, qui est assez tenace quand même. Bon, on parle beaucoup effectivement des contes de fées dans lesquels il y a toujours une marâtre qui vient perturber la vie de ses beaux enfants. Et quand je dis perturber, quelquefois, c'est vraiment tellement horrible que finalement, on est bien content de s'en débarrasser. Mais il y a quelque chose quand même qui perdure dans l'image qu'on a de la femme qui s'occupe des enfants d'une autre. Comme si c'était parce qu'elle avait volé les enfants d'une autre, finalement, en premier lieu le mari, et ensuite les enfants pour arriver à la place qu'elle a obtenue. Alors que les beaux-pères, eux, on les considère comme les sauveurs. C'est eux, finalement, qui arrangent la situation financière et sociale de la pauvre femme qui est seule avec ses enfants, qui va mettre un peu d'autorité dans la famille, qui va structurer tout ça. L'image du beau-père et de la belle-mère sont vraiment complètement différents. Alors, devenir belle-mère, par exemple... Bon, devenir beau-père, c'est un peu la même chose. C'est pas forcément prendre quelque chose à la mère ni au père. C'est deux places différentes qui peuvent avoir des points communs, mais qui sont de toute façon différentes. Les enfants ne s'y trompent pas. Ils savent qu'ils peuvent avoir une belle-mère ou un beau-père. Ça va absolument pas remplacer ce qu'ils peuvent avoir comme lien avec leur père ou avec leur mère et la place que ceux-ci peuvent avoir dans la vie de leurs enfants. Mais c'est important de le dire parce que les pères et les mères se sentent mis en danger très souvent justement par le fait que leur ex-conjoint refasse sa vie, recompose avec une nouvelle personne. Et ça crée du conflit de loyauté chez les enfants, ce qui peut engendrer des crises dans la famille. Parce que les enfants ne s'autorisent pas à avoir des liens avec leur belle-mère ou avec leur beau-père pour ne pas faire souffrir leur mère ou leur père, justement, de la situation. Alors que, voilà, il n'y a pas de danger dans la mesure où les places sont forcément définies. Qu'une belle-mère ne sera jamais la mère, un beau-père ne sera jamais le père, quel que soit l'attachement qui puisse se créer entre les beaux-parents et les beaux-enfants. Trouver sa place dans la famille recomposée, c'est un vrai challenge. Ça nécessite que, par exemple, quand vous êtes belle-mère, votre conjoint vous soutienne pleinement, vous donne cette place, vous aide à la trouver, en tous les cas, la respecte et permette à ses enfants de la respecter eux aussi. Je pense que on a tout à gagner, particulièrement en ce qui concerne les enfants, qu'il y ait des liens suffisamment harmonieux dans la recomposition. Même quand l'ex souffre de cette séparation et souffre du fait que ses enfants puissent avoir des liens avec une autre personne, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est que si vous accordez à vos enfants la possibilité de se sentir bien chez l'autre parent, recomposant, vous l'aidez à grandir et à construire quelque chose de sa vie à lui. Si vous, en tant que parent, vous n'accordez pas vous-même de place à la nouvelle compagne ou au nouveau compagnon de votre ex, vos enfants vont en souffrir. Je pense qu'il faut pouvoir, quand on est adulte, accepter qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà, accepter que plusieurs personnes puissent apporter quelque chose à nos enfants. Au niveau des adultes, il y a vraiment un travail à faire pour accepter, voilà, que d'autres adultes puissent avoir un lien avec nos enfants.
Fanny, avec le recul, je pense que le rôle du père et de la mère aussi des enfants est central dans la réussite, entre guillemets, ou en tout cas la possibilité qu'une belle famille existe et qu'une belle parentalité se passe de façon agréable, harmonieuse et satisfaisante pour tout le monde. Ce que j'ai vécu avec Laurent, c'est l'histoire d'un homme qui avait déjà 46 ans, qui avait déjà vécu, qui avait déjà une vision assez claire de la manière dont il voulait vivre sa vie d'homme, sa vie de couple et sa vie de père, et qui, dès le début, a été extrêmement clair avec les enfants, en leur disant « Voilà, Fanny arrive dans ma vie, et maintenant, elle est là pour longtemps, et je vais vivre une deuxième vie amoureuse très importante avec elle. Nous allons avoir des enfants. » Il avait dit ça alors qu'on n'en avait pas parlé et que j'en avais pas spécialement envie. Mais bon, il a annoncé la couleur comme ça de manière très claire. Et je pense que ça a été un cadeau pour nous tous parce que il y avait plus de questions. C'était plus questionnable, ce sujet. Je ferai une distinction entre l'année et demie sans Léo et puis ensuite avec Léo. La première année et demie, c'était un moment d'insouciance, en fait, complet pour moi. J'ai vraiment peu théorisé les choses, peu réfléchi. J'avais un rapport assez évident, spontané avec les filles et avec Jules. J'étais pas vraiment copine. Parce que je me suis toujours sentie adulte par rapport à eux, y compris par rapport à Jules. Donc, c'était pas ce registre-là, mais c'était un registre comme ça, très naturel et voilà, comme une vie communautaire, si tu veux. Après, à la naissance de Léo, là, je suis devenue mère. Et ça a été quelque chose de très profond et qui m'a changée et auquel j'ai évidemment beaucoup réfléchi. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident vis-à-vis de mes beaux-enfants dans la mesure où je suis devenue un peu plus stricte sur les horaires, sur le mode de vie, très inquiète. Pour Léo, j'avais jamais eu cette inquiétude pour mes beaux-enfants. J'ai jamais eu d'inquiétude existentielle très profonde pour mes beaux-enfants. Bien sûr, je voulais que ça aille bien. Mais si Lisou, qui était petite, devait rentrer à 5h30 et qu'elle arrivait à 5h45... J'avais pas eu le temps de m'inquiéter. Alors qu'avec Léo, depuis sa naissance, évidemment, j'ai cette espèce d'angoisse de mère qui est, je pense, assez partagée. Du coup, c'est un peu une nouvelle belle-mère qui est apparue pour les beaux-enfants et il a fallu que, qu'ils intègrent cela et que moi aussi, je devienne, en même temps que je devenais mère, cette belle-mère-là qui était un petit peu plus peut-être, dans le contrôle, dans l'autorité aussi parfois, dans l'idée que, je me faisais une idée précise de ce que devait être la famille, etc. Je me suis mis à beaucoup plus avoir de principes à partir de ce moment-là. Et je pense que c'est la naissance de Léo qui a créé ça. Et effectivement, je suis devenue une belle-mère peut-être un peu plus théorique. Sur cette question de la place, là encore, je pense que le rôle du père et de la mère des enfants est clé, notamment de la mère. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des beaux enfants qui avaient une mère très présente dans le soin de ses enfants, très attentive à ce qu'ils étaient, qui avait certainement beaucoup de conversations avec eux. D'ailleurs, ils m'en rapportaient certaines. Et donc, je n'ai pas eu cette responsabilité-là. Et en fait, ça m'a enlevé une sorte de fardeau. Et c'est vrai que quand, par exemple, Marie, que j'ai rencontrée à 12 ans et qui donc ensuite a traversé son adolescence, avait des moments, comme ont tous les ados, de périodes un peu sombres, de tristesse, de mélancolie, eh bien moi, je savais toujours que sa mère était là et qu'elle allait pouvoir l'aider, trouver des solutions. Et le fait d'avoir à l'esprit cette idée me permettait, moi, de rester à ma juste place, qui était assez latérale, en fait. Et la plupart du temps, quand des problèmes importants apparaissaient chez eux, je ne parle pas de la vie quotidienne et de la logistique, mais quand eux avaient des problèmes existentiels, eh bien, soit leur père était là et je me disais, bon, il va peut-être trouver une idée, une solution, soit j'avais à l'esprit que leur mère allait trouver. Moi, finalement, j'étais plus là juste pour écouter, consoler, mais finalement, j'avais pas cette responsabilité existentielle si lourde avec des enfants. Et je pense que ça a été bien. Ça a été bien pour notre relation. J'étais en périphérie. J'ai des souvenirs d'une grosse dispute avec Marie où je suis intervenue. Elle était en train de se disputer avec son père. Je suis intervenue. Ça a été une catastrophe. C'était nul. J'avais absolument pas à faire ça. Et on a mis des mois à s'en remettre. On s'est plus parlé pendant des mois. Et c'était, je pense, maintenant avec le recul légitime du côté de Marie parce que je suis rentrée sur un terrain qui n'était pas le mien. Et puis, il y a d'autres anecdotes peut-être moins lourdes, mais ça m'est arrivé aussi. Mais à chaque fois, j'ai compris au moment où ça fonctionnait mal que c'est parce que j'étais rentrée en centralité alors qu'il fallait que je reste plus latérale. Ce qui veut pas dire, et ça, plus les enfants grandissent, plus c'est possible, qu'on peut pas avoir une relation interpersonnelle très forte. Mais elle peut se passer sur les bords de la famille et pas au centre. Le centre, ça reste toujours, je pense, et quelle que soit la configuration de la belle parentalité, quand la mère est toujours là, la mère et le père, ou le père et la mère pour les beaux-pères. Alors, ça bouge énormément au fil des ans. J'ai pas assez de recul, là, sur la parentalité, parce que Léo, mon fils, a 10 ans, donc j'ai moins de recul. J'imagine que ça bouge comme ça bouge aussi pour la parentalité. Mais moi, ce que j'ai vécu dans la belle parentalité, c'est déjà le passage d'enfant de 8 et 12 ans au passage à l'âge adulte. Jules était déjà un adulte, ça a moins bougé, mais ça a bougé quand même aussi. Mais je vais en rester, par exemple, à Lisou, que j'ai rencontrée à 8 ans. C'était une petite fille avec une personnalité tout à fait extraordinaire. Voilà, une petite fille très vivante, passionnée de plein de trucs, de nature, d'animaux, enfin voilà. Avec qui on a une relation très intense, très forte, très complice, que j'ai adoré regarder grandir. Et puis, à un moment donné, elle est devenue une jeune femme, une adulte, et je ne l'ai peut-être pas vue tout de suite, ne serait-ce que parce que je ne l'avais pas toutes les semaines. Il y a ça aussi, c'est que les enfants grandissent, mais quand on est beaux-parents, on ne les voit pas tout le temps. Et donc, il y a eu un décalage de quelques mois pendant lesquels je n'avais pas compris qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, en fait. Et le jour où je m'en suis rendu compte, eh bien, ça a été comme une perte. Je me suis dit, bon, ben voilà, la petite fille que j'ai rencontrée n'est plus là, ou elle est là d'une autre manière. Et maintenant, il faut continuer une relation avec cet adulte qu'elle est devenue. Il va falloir que je me situe en tant que belle-mère vis-à-vis de cette jeune femme qu'elle est devenue. Et ça a été un apprentissage, en fait. Il a fallu que j'y réfléchisse, il a fallu qu'on en parle aussi, et que tout ça avance et évolue. Et voilà, ça n'a pas été naturel. Ça l'a été plus avec Marie, mais qui était déjà une ado quand je l'ai rencontrée. Et puis Jules, alors si, quand même, Jules a 30 ans maintenant. Je l'ai rencontré, il avait 18 ans. Il est devenu beau-père à son tour. Il sera sans doute père bientôt. Il est devenu un adulte complet, qui gagne sa vie, qui vit à Barcelone, qui a des choix, des principes, des idées, des valeurs très, très fortes, qui les exprime très bien. Et bien ça aussi, il a fallu que j'apprenne à me placer vis-à-vis de ce nouveau Jules, beaucoup plus adulte, et que bien, j'accepte de me décaler d'autant, en fait.
Thomas.
Tamara et moi, on a tout de suite trouvé notre place. Hein. Après, c'est les enfants qui ont du mal, ouais, vraiment. Pas par rapport à nous, notre rôle, parce que ce soit du côté de Tamara ou du mien, on a des parents qui n'ont pas voulu jouer le game, dans le sens où nous, on s'est imposé, on a dit qu'on voulait les enfants à 100% et on les a eus. Et on les a eus sans difficulté, donc c'est nous qui avons imposé nos règles, en fait, finalement. Et ça a été très gagnant, parce que ça apporte une super stabilité aux enfants, quoi. Pour nous, du coup, aussi, moins de conflits éventuels avec une autre vision d'adulte en face à gérer, difficile, etc. Donc, j'en ai un qui a aujourd'hui 21 et deux autres qui ont bientôt 16 et 14. Donc, voilà, c'est ce trio qui est au milieu, qui est en dessous. Le petit qui fait plus de conneries que les autres, au même âge. C'est très marrant. Il y a une rivalité dans l'originalité. C'est fou, hein. Ben là, j'ai mon grand qui dort ailleurs, qui est en train de s'émanciper. Donc pour moi, ça me permet un peu de couper le cordon. Du coup, les deux autres retrouvent un peu leur place naturelle. Voilà, ça arrête pas de changer, quoi. C'est une perpétuelle évolution.
Julie,
en tant que beau-parent, moi, ma place de belle-mère auprès de ma belle-fille Thelma, effectivement, elle a été mouvante. Elle avait 3 ans et demi quand on s'est rencontrés. Ça reste du coup une toute petite fille. D'abord, ça a été facile parce que la séparation de ses parents, même s'il n'y a pas de séparation qui se passe idéalement bien, c'est toujours un déchirement, particulièrement pour l'enfant qui est au milieu. Mais il y en a quand même qui se passent moins mal que les autres. Et je pense que ma belle-fille Thelma est dans ce cas-là. Elle a de la chance d'avoir eu des parents qui ne se sont pas déchirés, elle n'a pas vu ses parents se battre, que ce soit pour des biens immobiliers, pour sa garde. Les choses se sont toujours faites de manière plutôt simple. Je pense que ça m'a laissé l'opportunité de me faire une place. Sa mère a toujours été là, a toujours eu un super rôle. Enfin, il n'y a pas de défaillance de la maman, donc il n'y a pas de question de comment moi je vais remplacer une maman défaillante ou quoi. Pas du tout. Il n'y a pas non plus une maman qui cherchait, moi, à me mettre en difficulté. Tu as des mamans, j'imagine, comme ça, qui peuvent ne pas accepter que leur ex-conjoint reconstruise une vie. Tout ça, nous, ça n'a pas été le cas non plus. Donc, aucune difficulté. Donc, j'ai juste eu ma place de compagne. Et puis, avec ma place de compagne, venait une place de belle-maman. Ça s'est fait très naturellement. Finalement, c'est presque parfois plus difficile pour les autres. Je pense notamment, par exemple, à la maman de mon conjoint,
qui m'a toujours bien accueillie, hein, il n'y a jamais eu de difficulté. Mais je pense que pour elle, on parlait de génération tout à l'heure, je pense que pour cette génération qui a moins souvent vécu que nous ce genre de contexte, je pense qu'elle avait du mal à se dire « Ok, cette femme, quelle place elle doit occuper dans la vie de ma petite fille ? Et en quoi, moi, je dois compenser la grand-mère, puisque mon fils vient avec sa fille et sa nouvelle compagne dans ma maison en vacances, quelle place à cette femme ?» Et alors que pour mon mari, Erwan, pour ma belle-fille Thelma et pour moi-même, c'était hyper simple. Parfois, je pense que c'est plus les autres qui se posaient trop de questions, parce que nous, les choses se sont faites simplement. Après, moi, j'ai eu mon fils, mais plus tard, 5 ans après ma première rencontre avec Thelma, donc j'avais eu le temps de m'installer dans la belle parentalité. Je pense que ma place avec ma belle-fille Thelma s'est faite de la même manière que j'ai ma place avec mon fils aujourd'hui, parce que c'était très naturel, encore une fois, dans un contexte où c'était une enfant de 3 ans et demi. Une enfant de 12 ans, ça aurait peut-être été différent. L'abnégation dans le rôle du beau-parent, ça peut avoir une place centrale. Parce que de toute façon, le team spirit, effectivement, à moins de faire un pacte de parentalité, alors maintenant, ça existe. Hein. Moi, je ne l'avais pas fait avec mon mari, le pacte, et puis encore moins le pacte de la belle parentalité. Puis je pense que c'est quoi ? C'est 1% des couples aujourd'hui. Donc, de toute façon, même dans la parentalité classique, il y a des moments où tu vas composer en disant « Bon, j'aurais été toute seule à l'élever, j'aurais peut-être pas fait exactement de cette manière-là. » Donc, de toute façon, déjà, tu composes. Dans la belle parentalité, tu composes encore plus. Mais c'est différent parce que dans ta parentalité, tu vas composer en disant « Bon, là, on n'est pas tout à fait d'accord, mais après... » Qu'est-ce que je mets de côté pour préserver mon couple ? Et puis, quand même, c'est la personne que j'aime. Je l'ai choisie pour construire ma vie de famille. Donc, peut-être qu'il y a des choses que je n'avais pas envie d'entendre avant, mais que là, je vais entendre. Et du coup, tu vas un peu plus composer et mettre un peu ton mouchoir sur des principes en disant « je protège ma famille, je protège mon couple, je protège mon équilibre ». Parce que ça concerne la personne que tu aimes, alors que vis-à-vis de l'ex-conjoint, pas celui avec lequel tu partages ta vie, tu peux avoir tendance à dire « mais je m'en fous en fait ». L'ex-conjoint, c'est une femme aussi. Et du coup, je pense qu'il y a des moments où je me suis dit « je m'en fiche, elle en pensera ce qu'elle veut ». Entre guillemets, moi j'ai la chance de pouvoir me dire que c'est elle qui a choisi de se séparer. Si tu veux pas qu'il y ait d'autres gens qui interfèrent dans l'éducation de tes enfants, tu te sépares pas, pardon. C'est complètement caricatural et très binaire. Mais à partir du moment où tu te sépares, tu prends le risque, quand tes enfants sont encore petits par ailleurs, tu prends ce pari de dire « oui, il y a d'autres gens qui vont intervenir dans l'éducation de mes enfants ». Et de toute façon, il y a plein d'autres gens finalement qui interviennent dans l'éducation de tes enfants. D'abord, si tu ne fais pas la scolarité à la maison, tu as tout le système éducatif. Et puis, quand tu confies tes enfants à tes parents, finalement, tu n'es jamais tout seul. Donc, c'est juste un petit rôle différent où parfois, il faut un peu plus te justifier de certains actes vis-à-vis de l'autre parent, donc de l'ex-conjoint. Il n'y a jamais eu trop de difficultés. L'abnégation, c'est plus de se mettre des limites, soit, et de se dire, non, là, je ne m'autorise pas ça parce que ce n'est pas mon enfant. Mais là, c'est très personnel et je ne saurais pas dire, je n'aurais même pas donné un exemple. Je pense qu'on se pose nos limites à nous-mêmes en fonction de là où on se sent aligné, quoi. Sur la question de l'ingratitude... J'ai pas forcément comme ça d'anecdotes qui me reviennent très concrètes. En revanche, comme maintenant, ma belle-fille Thelma est une ado, elle a 15 ans et demi au moment où nous nous parlons, je pense que là, on est beaucoup dans l'ingratitude. Toutefois, n'ayant pas d'ado qui soit à 100% mon enfant, je ne sais pas si ça relève de l'ingratitude d'un bel enfant ou de l'ingratitude d'un ado, basiquement. Ça, je pourrais te le redire dans 9 ans, quand son petit frère aura le même âge. C'est plus l'ingratitude. En fait, ce n'est pas vis-à-vis du bel enfant, l'ingratitude, quand on en parle. C'est vis-à-vis de ton conjoint, parfois, et de l'ex-conjoint. Où toi, tu fais des choses pour l'enfant. Bon, je dis les ou le, moi, il se trouve que je n'ai qu'une belle-fille dans ma belle parentalité. Mais je pense que pour ceux et celles d'entre nous qui sommes des beaux-parents et qui partageons la vie de conjoints qui ne sont pas eux-mêmes beaux-parents, donc qui, quand nous n'avions pas d'enfants, donc nous sommes arrivés dans la famille recomposée, juste un adulte, et qu'on s'est mis avec un adulte qui avait un enfant, c'est différent aussi des couples qui se mettent ensemble alors qu'ils ont déjà chacun des enfants de leur côté, parce que là, entre guillemets, il y a une espèce d'égalité. Les deux membres du couple sont beaux-parents des enfants de l'autre. Dans mon cas, c'est très différent. Moi, je suis belle-mère, mon mari n'est pas beau-père. Et donc, je dirais que l'ingratitude, elle se joue plus là, de dire, mais est-ce que toi et je ne le saurai jamais. Et puis, on n'est pas là pour tenir une comptabilité. Mais parfois, et puis même, je pense vis-à-vis de la belle-famille, parfois aussi, je parlais de ma belle-mère tout à l'heure, parfois, certaines personnes de la famille qui attendent de toi autant que si tu étais la maman, mais ne te reconnaissent pas complètement la même légitimité qu'à la maman. Du coup, parfois, ça peut être un tout petit peu incohérent. Et finalement, l'ingratitude, c'est plus de la part, je trouve, des autres adultes qui composent la famille recomposée au sens large, pas que le conjoint, que l'enfant en elle-même.
Hugues. J'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place assez facilement, puisque Sophie était déjà séparée du père, qu'au final, ils avaient vécu très peu de temps ensemble et qu'Aloïs était encore très jeune. Donc moi, j'ai le sentiment que ça s'est fait assez facilement, en tout cas au début. C'est plus après, quand Aloïs a commencé à grandir, là, il y a eu des fois où ça a pu être plus compliqué avec les relations avec son père, ainsi de suite. Mais en tout cas, au début, je suis passé assez facilement du statut de célibataire sans enfant à en couple avec un enfant. De toute façon, quand on s'est remis avec Sophie, pour moi, c'était quelque chose de sérieux. Et donc, il y avait le projet de fonder une famille. Disons que ma liberté, j'y comptais plus trop. J'avais passé l'âge de vouloir m'amuser. Par rapport à ma place, c'est plutôt Aloïs qui me l'a fait sentir. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des phases où, en grandissant, il a été beaucoup plus dur avec moi. Et autant quand il était tout petit, je pense qu'il m'avait pris un peu comme son père. Et à mon avis, il y a un certain âge où il a clairement pris conscience qu'il y avait son père et puis il y avait moi dans l'histoire. Et donc, il y a des moments où il a été beaucoup plus difficile parce qu'il était tiraillé par des conflits de loyauté entre moi, avec qui il vivait au quotidien et avec qui ça se passait bien, et puis son père qui voyait de temps en temps. Alors pour l'arrivée de nos deux filles, on s'est efforcé donc de ne pas faire de différence au sein de la fratrie, hein, vraiment de les tous les mettre au même niveau et donc de les traiter vraiment de manière équitable. Ça a toujours été un peu notre fil conducteur pour pas justement mettre Aloïs à l'écart. On a préparé Aloïs, on a pas mal préparé le terrain parce que le contexte en plus pour Aloïs était un peu particulier puisque en fait il est né juste quelques mois après le décès de la mère de Sophie, de sa grand-mère. Donc en fait il a pris une place un petit peu pour compenser. Donc pendant longtemps c'était l'unique petit enfant et donc il avait un peu la place de star. Donc je pense qu'au-delà du fait de la famille recomposée, il fallait déjà faire le travail de préparation, j'ai envie de dire lambda de chaque famille quand il y a un enfant unique et qu'il y en a un deuxième qui arrive. Et nous, en fait, on s'est vraiment concentré là-dessus. On s'est vraiment dit, c'était un deuxième dans la fratrie, point barre. On n'a pas fait de distinguo vraiment pour adapter ça à une famille recomposée. C'était vraiment comme si, en fait, c'était Aloïs, c'était notre premier enfant et puis qu'il y en avait un deuxième qui arrivait. Même topo pour l'arrivée de la troisième, on est resté sur la même lignée. Après, de toute façon, plus la famille s'agrandit, moins on peut faire du sur-mesure en fonction de chaque enfant. Quelque part, je pense que c'est une bonne chose, parce que justement, plus le temps va aller, plus il sera dilué dans cette fratrie. Donc pour moi, j'ai plutôt le sentiment que ça sera un moyen pour lui et pour nous de mieux l'intégrer dans la famille. C'était important pour nous de ne pas marquer de différence entre Aloïs et puis ses deux demi-sœurs, qui effectivement... dans les faits, sont des demi-sœurs. Mais c'était son père qui, justement, devant lui, en parlant de ses deux sœurs, parlait de ses demi-sœurs. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pertinent parce que ça appuyait sur quelque chose qui sûrement peut-être le faisait souffrir ou de toute façon dont il avait déjà conscience. Donc oui, effectivement, ce sont ses demi-sœurs. Mais le fait d'employer le mot « sœur », ça les englobe dans une fratrie. Et ce qui, en fait, correspond à la vie au quotidien, puisque de toute façon, il vit avec nous. On a les trois enfants avec nous. Donc, en fait, ça correspond, je pense, plus à son ressenti. Et quand je vois aujourd'hui l'amour qu'il a pour ses deux sœurs, et notamment la petite dernière, je pense que lui, au niveau de son ressenti, c'est sa sœur. C'est pas du tout sa demi-sœur. Il fait pas le distinguo. Parce que pour le coup, justement, le père d'Aloïs s'est remarié et il a eu un enfant. Donc maintenant, il vit à l'étranger. Et cet enfant, c'est le demi-frère d'Aloïs. Et il ne le voit jamais, il ne vit pas avec lui. Donc pour moi, ça aurait plus de sens de dire que c'est son demi-frère. Mais c'est vrai que je pense que le terme n'est pas adapté à la situation qu'on vit, nous. Et en tout cas, je ne trouve pas ça intelligent et pertinent de dire ça devant un enfant. Au niveau de la temporalité, moi, j'ai rencontré Aloïs à 1 an. Et après, très rapidement, avec Sophie, on s'est mis ensemble. Et puis, on a emménagé ensemble. Donc, c'était presque normal. Et en plus, l'avantage que j'aurais... si dans quelques années, justement, il vient me chercher des noix, c'est que moi, pour le coup, je lui ai changé des couches, je me suis vraiment occupé de lui quand il était petit. Donc, s'il vient me sortir des phrases du genre « t'es pas mon père », je pourrais lui dire « je suis peut-être pas ton père, mais tes couches, je les ai changées ». Donc, j'aurais dû répondre. C'est sûr que ça m'aide, disons, pour ma légitimité de beau-père. C'est clair que voilà, j'ai gagné, je pense, en crédibilité vis-à-vis de lui. Une des questions qu'on s'est posées au début avec Sophie, effectivement, c'était « comment est-ce qu'il allait m'appeler ?» parce que ça nous semblait assez déplacé qu'il m'appelle papa, parce que je ne suis pas son père. Donc c'est Sophie qui a trouvé un mot de remplacement, et donc il m'appelle Dadou. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, mes deux filles, qui sont ces deux petites sœurs, m'appellent également très souvent Dadou. 50% du temps, elles m'appellent Dadou, et 50% du temps, elles m'appellent papa. Et voilà, ça pose de problème à personne. Oui, alors nous, c'était pas une garde alternée, mais c'était le papa d'Aloïs à la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et c'est vrai que pendant une période, ça a été assez compliqué, parce qu'on se rendait compte que quand il revenait de chez lui, il était assez déphasé. Lui, il était forcément tiraillé avec ce conflit de loyauté. Et de toute façon, même en dehors de ça, quand on est petit, je pense que pour les enfants, c'est important d'avoir une certaine stabilité. Et mine de rien, on passe d'une famille à l'autre. Lui, en plus, à l'époque, était célibataire. Donc c'est-à-dire qu'il passait d'une famille où il y avait deux parents, il avait une petite sœur, on avait des règles, à justement, il va seul avec son papa, qui voulait en profiter pour passer des bons moments avec lui. Donc le retour était systématiquement assez difficile. Ce qu'on a essayé de faire pendant un moment, c'était que son père le prenait moins souvent, mais plus longtemps, pour éviter justement les petites phases, un week-end ou une semaine par-ci, par-là. Donc c'était, il les prenait moins souvent le week-end, mais en revanche, quand il le prenait, c'était des week-ends de 4 jours. Ça allait parce qu'Aloïs était encore à la maternelle, donc bon, il pouvait se permettre de rater le vendredi et le lundi. Mais ça, c'était un système qu'on avait mis en place et qui était assez efficace.
Catherine. Mon rôle de belle-grand-mère s'est construit, je dirais, quasiment d'emblée. Un souvenir que je n'ai pas, c'est comment elle m'a appelée spontanément. Mais très vite, on en est arrivé à mamie et papy pour mon mari. Quand elle venait à la maison, on pouvait lire un petit peu ensemble, faire des jeux, parler, discuter. Il y avait aucun problème. Je faisais comme je pensais que devait faire la grand-mère. J'avais pas de petit enfant. J'ai maintenant un petit-fils, qui est le fils de ma fille. C'est le seul petit enfant biologique que j'ai. Les trois autres enfants sont petits-enfants. Sont des beaux petits-enfants, mais j'essaye de trouver comment expliquer. Je dirais, c'est un petit peu le hasard des rencontres. Pour Thelma et Vadim, pour moi, ils sont frères et sœurs. D'ailleurs, quand ils parlent l'un de l'autre, c'est mon frère et ma sœur. Moi, je n'aime pas beaucoup l'expression demi-frère ou demi-sœur, comme si c'était des enfants qui étaient coupés en deux et qu'on en ait chacun reçu une moitié. Quand ils viennent à la maison, c'est le même régime pour l'un ou pour l'autre. C'est mamie, papy, il y a des interdits, il y a des autorisations que peuvent donner les grands-parents, que donnent les parents, parce que, comme je dis régulièrement à ma fille, l'éducation, c'est votre rôle. Nous, les grands-parents, pour moi en tout cas, mon rôle, c'est éventuellement d'autoriser ce qui est interdit à la maison, dans la mesure, évidemment, du raisonnable. Hein. Je parlerai, par exemple, en termes de bonbons, de regarder des tablettes, ou de se coucher tard, etc. Pour ce qui concerne le fondamental, non. Jamais, ni Georges ni moi, on ira à l'encontre de l'éducation donnée par les parents. Parce que c'est quand même eux qui sont la tâche et la référence.
Maëva.
Alors, il faut savoir que nous, on avait deux schémas très différents de belle parentalité. Déjà, je pense qu'il est important de dire que moi, quand j'étais petite, ma sœur est née, j'avais pas encore 2 ans. Et ma maman a eu une grossesse à risque avec ma petite sœur. Donc, il a fallu me mettre chez mes grands-parents pendant un moment. J'avais moins de 2 ans. Donc déjà, j'ai été éloignée de ma mère très tôt. C'est des choses que je comprends aujourd'hui en tant qu'adulte. Hein. J'en ai pas de souvenirs, mais après avoir parlé beaucoup avec mon père et ma maman, j'ai compris des choses. Donc déjà, je pense que j'ai été habituée, déjà petite, à être séparée de ma mère, malgré moi, et à bouger. Mes parents étaient très jeunes, donc j'allais très souvent chez mes grands-parents en vacances. Mon papa, qui travaillait beaucoup, voyageait. Donc du coup, je le voyais pas beaucoup non plus. Quand mes belles-mères sont arrivées, je vivais avec mon père, car il ne vivait pas avec nous. Et ensuite, le divorce a été prononcé. Tout ce que je sais, c'est que mon père a accepté que ma maman ait la garde. Donc on est allé vivre avec ma maman, on vivait dans un tout petit appartement à Paris qui faisait, je pense, 30 mètres carrés, parce que je sais qu'il y avait 2 petites pièces. Donc je dormais dans une chambre avec ma sœur, et ma mère et ma belle-mère dormaient dans une autre chambre. J'ai beaucoup de souvenirs de cette époque un peu sombre, mais pas tellement du fait que on vivait avec ma mère ou on n'aimait pas ma belle-mère. C'était très sombre parce qu'en fait, ma maman et ma belle-mère se sont fait attaquer cette année-là. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de souffrance et beaucoup de compassion pour ce couple qui, moi, en tant qu'enfant, ça me paraissait complètement fou qu'on attaque des gens parce qu'ils s'aimaient. Et donc, je pense que très naturellement, je me suis mis à aimer ma belle-mère en me disant, il y a eu un instinct protecteur enfant. Enfin, moi, je m'en rappelle comme ça, de me dire, c'est pas normal, en fait, qu'on fasse du mal à ma maman et à sa chérie, parce que c'est, bah, c'est mes mamans, ce sont mes mamans. Et de l'autre côté, j'avais mon père et Karine qui avaient un appart un peu plus grand, qui vivaient en banlieue, et on venait un week-end sur deux, et ça se passait toujours super bien, on était choyés, gâtés, c'était top. En vacances, on allait chez nos grands-parents. Donc en fait, on bougeait, j'avais pas vraiment de place, et en même temps, j'avais une place à chaque fois que j'allais quelque part. En fait, Karine et moi, on a une relation, mais je la considère pas comme une belle-mère. Aujourd'hui, Karine, quand je dis « je vais voir ma mère », mes copines ont tendance à me dire « laquelle ?» Donc, c'est pour dire à quel point on est proche. Et en fait, je pense que j'avais certaines carences avec ma maman. Ça lui enlève pas son rôle de mère, elle s'est toujours occupée de nous, etc. Mais j'avais beaucoup de carences affectives avec ma mère. Et je pense que justement, j'avais du mal à trouver ma place avec ma propre mère. Tout simplement parce que j'avais un caractère, j'étais une enfant extrêmement sensible. Ça a créé des divergences avec ma maman et une distance. Parce que je pense qu'elle essayait très sincèrement de me renforcer, de me rendre plus forte et d'avoir moins besoin du regard des autres en tant qu'enfant. Et je me suis toujours sentie rejetée avec ma maman. Et Karine, en fait, est arrivée avec une patte tendre. Karine, c'était quelqu'un qui, quand on allait se coucher le soir, ma sœur avait peur du noir. Elle lui faisait des guilis pendant une heure et puis après, elle m'en faisait pour qu'il y ait une certaine équité. Et elle restait avec nous, je me rappelle, très longtemps avant qu'on dorme. Limite, elle restait jusqu'à ce qu'on commence à somnoler, à s'endormir. C'était quelqu'un qui s'asseyait, qui parlait beaucoup avec nous. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup confortée. Je ne me suis jamais sentie rejetée avec Karine. J'ai toujours senti que j'avais une place, qu'elle était là avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Ça me met les larmes aux yeux. Et en fait, ça a été un amour qui a été extrêmement inconditionnel, qui a été extrêmement naturel. Mes parents, mon papa et Karine se sont séparés quand j'avais peut-être 8-9 ans. Parce que Karine voulait des enfants et que mon père avait déjà deux filles et il n'en voulait pas. Et je me rappelle que mon papa nous emmenait voir Karine. Donc c'était déjà pour dire qu'elle était très inscrite dans notre schéma de vie et qu'on l'aimait déjà beaucoup. Et je pense qu'on a eu énormément de chance que ma maman aussi lui laisse la place. De s'occuper de nous et de nous aimer, parce que ça ne devait pas être simple hein, quand on rentrait pour dire « Ah Karine, nani, Karine, nanin », voilà. Et en même temps, il n'y avait pas tout de l'autre côté. Donc quand on arrivait « Oh, bah pas tout, machin. » Et nos parents ont juste laissé la place à tout le monde, quoi. Et ont accepté qu'on avait deux familles, deux foyers. Et du coup, ça a facilité les rapports, la construction des rapports. Au niveau de ma capacité d'adaptation, tout simplement parce que déjà petite, j'étais séparée de ma maman, que j'étais un week-end sur deux chez mon papa, que j'allais en vacances avec mes grands-parents, donc ma grand-mère maternelle, puis après ma grand-mère et mon grand-père paternel. Ma belle-mère nous emmenait en vacances. Donc en fait, on était tout le temps bougé, trimballé de foyer en foyer. Et en fait, c'était normal, on ne se posait pas la question. Par moments, c'était difficile, tout simplement parce que c'était compliqué de comparer avec mes copains à l'école, où moi j'allais dormir chez eux, c'était vachement plus simple, c'était très compliqué parce que moi mes copains ne venaient jamais dormir à la maison. Je l'ai compris adulte, que c'était simplement que ma mère voulait éviter que mes copains sachent que ma maman vivait avec une femme, parce qu'à l'époque, et hélas encore aujourd'hui, c'est des sujets compliqués pour certaines familles, et qu'elle avait peur que ça se retourne contre nous, puisqu'on avait déjà eu des problèmes à l'école, avec d'autres enfants qui étaient pas très sympa, et que les adultes sont pas plus sympas par moment. Donc elle voulait nous protéger de ça. Déjà, voilà, mon papa habitait en banlieue, donc pour inviter des amis à la maison, c'était compliqué. Du coup, on a toujours été construite comme ça, avec une famille assez dense, des foyers très puissants, finalement, et pas tellement de copains à la maison, mais une famille très présente. Et partout où on allait, en fait, on avait notre place. Quand j'allais chez mes grands-parents, on avait notre chambre avec Manon. Quand on allait chez mon père, on avait notre chambre avec Manon. Quand on allait chez notre mère, on avait notre chambre avec Manon. Quand on allait chez mon autre grand-mère, on avait notre chambre avec Manon. Donc du coup, je pense que le fait qu'on soit trimballés ensemble, on avait un bout de foyer commun tout le temps. Partout où on allait, on était toujours toutes les deux. Donc on n'était jamais vraiment seules. C'est ça aussi qui, je pense, a facilité cette transition et ouais, d'être trimballés en fait. Je pense aussi que les gens, les adultes, ont facilité ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivait dans un foyer, moi, mes grands-parents, ils s'occupaient de nous. Mais super, on a énormément de chance, on a énormément de gens pour nous aimer. Donc on avait juste de l'amour en plus, en fait. C'est ça qui était cool. Et des cadeaux en plus à Noël, ça, à ne pas négliger, c'était cool. Beaucoup de bonus. Alors nous, on avait deux beaux couples différents. Je vivais au quotidien avec ma maman et sa compagne, donc Patou, ma belle-mère. Et je dirais que Patou était plus en retrait dans l'éducation par rapport à Karine, si je devais faire un comparatif. En revanche, elle était pleinement là, hein, elle était pleinement présente. Mais je me rappelle que je voyais beaucoup Patou plus tourner dans sa relation vers ma mère que dans sa relation avec nous. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne nous aimait pas. On avait une relation de jeu avec Patou. On jouait beaucoup avec Patou, elle nous faisait beaucoup rire. Elle s'occupait de nous. Ma mère lui laissait J'ai jamais entendu ma mère lui dire « c'est mes filles, je m'en occupe ». Non, quand on faisait de la merde, Patou, elle savait très très bien nous punir, il n'y avait pas de problème. On avait de l'espace. Les deux beaux couples étaient distincts, c'est-à-dire que j'ai jamais vu mon père intervenir dans ce qui se passait chez ma mère, ça ne le regardait pas, et pareil, j'ai jamais vu ma mère intervenir sur ce qui se passait chez mon père et ma belle-mère. J'ai eu des commentaires, comme tout enfant divorcé, de mon papa qui râle parce qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas, qui se passe de l'autre côté, ou ma maman, etc. Mais en tout cas, j'ai jamais entendu... ils s'appelaient de temps en temps pour se mettre d'accord sur des décisions importantes par rapport à ma sœur et moi. Au quotidien, ils n'intervenaient pas, quoi. C'était, on était chez ma mère, c'était Patou et ma mère, point. On était chez mon père, c'était Karine et mon père, point. Du côté de mon père et Karine, on avait vraiment plus ce schéma de 7 à la maison. Karine et mon père se levaient le matin, s'occupaient de nous toute la journée. Chez ma maman, ma mère a été éclatée le week-end. Elle dormait jusqu'à 11h avec ma sœur. On faisait des missions commando dans le couloir. On avait un appart de 40 mètres carrés. Il ne fallait pas faire grincer le parquet pour aller choper le téléphone dans la chambre de ma mère pour appeler Karine et mon père parce qu'on se faisait chier. Donc, c'était autre chose. Et quand on était chez mon père et Karine, c'est vrai qu'on avait vraiment plus cette sensation de famille traditionnelle, en fait, qui n'a rien à voir avec l'homosexualité et tout. Hein. C'était vraiment un fonctionnement où ils se réveillaient le matin. Ils nous avaient un week-end sur deux. Donc, je pense qu'ils mettaient aussi le paquet parce qu'on ne les voyait pas souvent. Et Karine avait, comme Patou avec ma mère, avait mes libres droits avec nous, quoi. Donc, quand on faisait des choses qui n'allaient pas, Karine intervenait, mon père, pareil, ne lui disait pas « je m'en occupe, ce sont mes filles » ou « t'es pas leur mère », jamais. Elle était là, elle prenait notre défense parce que mon père, sur les devoirs, pouvait être assez excessif. Et donc, on avait toujours un allié, c'était Karine. Si on voulait faire passer un truc à mon père, il fallait demander à Karine parce qu'on savait que c'était toujours plus cool avec elle. Voilà, après, c'était vraiment un couple solide, eux aussi. Voilà, ils faisaient front ensemble quand quelque chose n'allait pas. J'ai eu mes émois avec Karine parce qu'effectivement, elle était beaucoup plus impliquée, elle, dans son rapport avec nous et donc dans notre éducation. Quand il se passait un truc, on lui posait une question, elle m'a jamais dit « va demander à ton père ». Pas tout, à l'inverse, me disait souvent « vois avec ta mère ». Donc, c'était vraiment pas le même niveau. Et j'ai déjà dit à Karine, à un moment, on s'est embrouillé, je ne sais plus pourquoi, j'avais 8 ou 9 ans. Elle me dit, je lui dis « t'es pas ma mère ». Et alors là, s'en est suivi une séance de « on se parle pas ». Et on s'est eu au téléphone, je ne sais plus combien de temps s'est écoulé entre cet épisode de « T'es pas ma mère » et cet appel, mais je me rappelle que j'étais dans ma petite douche chez ma maman, que j'avais pris le téléphone fixe, et donc Karine me manquait. Et donc je l'ai appelée, et donc elle m'a expliqué qu'en fait, elle m'aimait, et que... Pardon. Et qu'en fait, c'était à moi de prendre la décision. Qu'elle ne pouvait pas avoir une relation de maman avec moi où il n'y ait que le positif. Donc quand ça n'allait pas, elle me dirait aussi. Et que soit elle s'occupait de moi à 100%, positif comme négatif, soit c'était non, ça ne voudrait pas dire qu'elle ne m'aime pas, mais qu'elle ne pouvait pas s'investir à 100% avec moi si au final, dès qu'il y avait quelque chose de négatif, je rebalançais que ce n'était pas ma mère. Soit elle avait un rôle de parent avec moi, soit c'était ma copine, mais dans ce cas-là, je voyais pour l'éducation, pour les trucs plus importants, j'irais voir mon père. Et donc, elle m'a laissé le choix, en fait. On a eu cette discussion, mais je veux que tu t'occupes de moi comme un parent. Je lui ai dit, je veux que tu sois, mon autre maman, quoi. Et j'ai eu le choix. J'ai eu le choix et j'ai assumé ma décision depuis. Il n'y a jamais eu de regrets ou de machine arrière. C'est mon autre maman.
Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout et parlez-en autour de vous. Un chouette commentaire et vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcasts seront toujours les bienvenus. Si vous souhaitez participer à ce drôle de labo, continuer l'aventure et faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me le proposer sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de La Belle Parentalité et tentez de choper ensemble ces petites clés.